un des ennemis qui se fait neutraliser d'une balle dans l'épaule. C'est la première fois que je vois le visage de l'ennemi, donc c'est un peu particulier, ça prend sens, quoi, ça devient humain. J'ai côtoyé l'agonie pour la première fois et c'est vraiment quelque chose de particulier, cet sentiment d'impuissance de quelqu'un qui sait que son destin est tracé. Mon binôme était passé sans le vouloir au-dessus d'un dispositif dans la pièce avec des bombes de partout. Il ne le savait pas, il a passé plusieurs fois dans la pièce, etc. C'est juste que son pied s'est posé au bon moment, au bon endroit, sans jamais appuyer sur le dispositif. En fait, en levant la tête, je me suis rendu compte que j'étais au point d'impact des bombes et que du coup, ça avait projeté des restes humains, des mecs qui étaient présents sur la zone, dans l'arbre. Donc ça avait vraiment un côté film d'horreur. Je m'appelle Roland, j'ai 33 ans, je suis né en Martinique. Mon père était gendarme, ma mère institutrice, donc je suis issu de la classe moyenne. J'ai eu l'occasion de pas mal voyager en France du fait du travail de mon père. J'ai fait donc une classe prépa éco, envie de préparer soit les grandes écoles militaires, soit les écoles de commerce. Donc j'ai toujours eu un intérêt pour le métier des armes depuis que je suis petit. Hein. Les vocations commencent très tôt à jouer dans le jardin avec ses frères et sœurs à la guerre. Mais j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents, pour m'éveiller intellectuellement et aussi pour ne pas me fermer aucune porte en termes de plan de carrière. Pendant mes études, j'ai très vite abandonné l'idée de faire Saint-Cyr pour plein de raisons, mais le plan de carrière ne me plaisait pas trop. Je commençais à m'ennuyer pendant mes études. J'étais du genre à regarder par la fenêtre et à me dire que je serais bien mieux dehors. Les écoles de commerce, pareil, les perspectives de carrière me paraissaient un peu trop abstraites, trop superficielles. J'avais besoin de faire quelque chose de concret et j'avais déjà une idée précise de ce que je voulais faire au sein de l'armée avec cette volonté d'être sur le terrain, de commencer assez bas et d'essayer tout le long de ma carrière d'être acteur de ce qui se passe et donc de ne pas être décisionnaire mais plutôt acteur. Donc j'ai fait 3 ans de classe prépa, sauf qu'en sortie de classe prépa, donc en termes de RH, c'est un peu compliqué. Donc moi je voulais faire l'infanterie, pour derrière peut-être envisager de faire les forces spéciales. Et il y avait 1 an et demi d'attente, parce que je m'y prenais très tard. Donc en fait je me suis dit que j'avais entendu des amis qui avaient déjà fait ça, prendre une spé qui est déficitaire au niveau RH. Et par rapport à mon classement, changer de spécialité une fois que je serai là-bas en école. Donc je choisis télécommunications dans les transmissions. Je finis major au CME, donc à mi-parcours dans ma promo à Saint-Mex. Et je commence mes épreuves pour le CM1 à la fin, où je suis quasiment major ou deuxième, je crois. Donc très content de ma position. Je me dis que le changement de spécialité va se faire factuellement. Sauf que la RH m'explique que l'aspect infanterie est excédentaire et que mon aspect est ultra déficitaire, donc ça va être impossible de faire ce changement de spécialité. Sauf que la malchance fait qu'il n'y a que des régiments de transmission et ça ne me plaît pas plus que ça, d'autant plus que j'ai fait un stage encore de troupes pendant le cursus. C'est pas trop ma cam. Je vais voir le directeur de l'école et je lui annonce que je vais démissionner, rompre mon contrat de sous-officier, qui est très mal accepté par lui, mais surtout par la DRHAT. Pendant ma classe prépa, on avait l'occasion d'être réserviste en même temps, donc il y avait une sorte de partenariat qui était organisé entre le RICM à l'époque et ma classe prépa. Donc il y avait pas mal d'élèves qui étaient volontaires pour faire ça, donc ça m'a donné une première approche du milieu militaire, qui était positive dans le sens où déjà j'étais avec mes camarades d'école, donc il y avait déjà ce sentiment d'esprit collectif et de camaraderie qui était bien ancré. C'était exaltant et déstabilisant en même temps parce que c'est la première fois qu'on comprend les contraintes de terrain et qu'entre la vision un peu fantastique que l'on se fait de l'armée à travers les films ou à travers la culture dans le sens large du terme, effectivement le froid, la fatigue, le stress, etc., ça rentre en compte. Donc quand on est jeune comme ça, ça c'est bien parce que ça temporise et ça nuance un peu cet idéalisme qu'on a sur la chose militaire. Donc je me suis dit que c'était bien comme première approche et que graduellement comme ça j'allais pouvoir m'endurcir et puis gagner en maturité sur ce qui est vraiment l'armée au quotidien. J'ai pu m'engager militaire durant au 3e RIMA. C'était dur au début parce qu'en plus ça contraste avec l'innocence et l'insouciance de la jeunesse et de la période d'études où on est un petit peu en vase clos et non confronté aux problèmes du monde et aux responsabilités, etc. Et là, ce premier échec m'a beaucoup attristé et en même temps m'a forgé. Et je pense que c'est une belle leçon sur tout un parcours de vie. Donc mes premiers pas dans les troupes de marine, c'était assez atypique. Je sortais d'études, donc on a quand même affaire à une population particulière, enfin des gens qui font des études supérieures. J'ai débarqué dans le monde militaire, donc au plus bas de l'échelle sociale et hiérarchique. C'est sans pitié, quoi. Il y a moins d'empathie, on y met moins les formes. C'est un monde un peu brut, un peu rustre, mais qui du coup est réel. J'ai côtoyé des gens, une population que j'avais pas l'habitude de côtoyer, avec des horizons complètement différents, qui viennent de partout dans France, et notamment des dom-toms, etc. Donc j'ai appris beaucoup à leur contact. J'ai trouvé des gens vrais, simples, qui avaient une profondeur, souvent inconsciente, mais un sens du service, un sens de la camaraderie, etc., que j'étais content de trouver. Donc ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup forgé, et également les cadres. Donc c'était particulier parce que la section qui me formait revenait d'Afghanistan et avait été... ils ont fait un mandat difficile, il y a eu plusieurs morts, pas mal de blessés, etc. Donc c'était pour moi la première connexion à cette réalité brutale du métier des armes à travers eux, leur propre expérience, parce qu'on sentait que ça les avait marqués. Et du coup, à travers leur regard, leur pédagogie, leur façon de nous parler, j'avais l'impression de me rapprocher de plus en plus de quelque chose qu'on fantasme, qui est l'action au sens pur du terme. Et j'ai commencé à me rendre compte, parce que la formation était dure, qui nous préparait à ce monde, à cette réalité. Et je trouve que ça m'a bien servi comme première approche. C'était sans concession, comme l'est le métier des armes dans sa finalité. Je me suis endurci pendant les classes, j'ai appris la vie sur le terrain, j'ai appris le respect de l'hiérarchie, les rudiments de la vie militaire, etc. Mais j'avais l'impression qu'en continuant ce cursus-là, je ne m'offrais pas toutes les capacités de vivre la finalité que j'avais envie de vivre, qui est l'opérationnel. Donc, comment mettre toutes les chances de son côté? En privilégiant les unités qui partent le plus. C'est pour ça qu'au bout de 2 ans, je présente mon dossier pour le premier PMA. Donc mon dossier est accepté. Je pars faire mon stage para, mes entretiens psy, tout se passe bien. Et je commence les sélections, donc c'était en janvier 2013. Nos sélections commencent en plein hiver, donc ça met directement dans le bain. On pense arriver dans le sud de la France et en fait on découvre le Pays Basque qui est un microclimat qui n'a pas de sens. Donc les sélections sont très rudes, beaucoup de questionnements comme tout le monde, mais tous les jours cette réflexion de est-ce que je vais quitter ou pas. À Bayonne c'est une formation qui est longue, donc c'est plus un marathon qu'un sprint, il faut savoir gérer son effort. Et ça c'est un peu particulier, donc il y en a qui partent trop vite et qui en fait se cassent en plein élan, veulent trop donner ou pas assez, et du coup rentrent pas dans les critères de sélection. Donc contre toute attente de ma part et de celle de mes potes, en plus le petit noyau qu'on avait constitué pendant les sélections, la plupart ont terminé. D'autant plus qu'on jugeait qu'on avait moins à faire notre place ici que d'autres. J'ai jamais été une brute physiquement, j'ai jamais considéré que j'avais un moral à toute épreuve. Mais de me dire que finalement, j'ai peut-être pas le meilleur profil pour y arriver, quelque part, ça cassait. En fait, je me disais, j'ai rien à perdre, quoi. Autant oser, et autant faire preuve d'audace. Et puis voilà, si ça se passe pas, ça se passe pas. Et bien, au final, c'est passé. Donc voilà. Ouais, donc l'arrivée à la citadelle de Bayonne est assez solennelle parce que même architecturalement parlant, elle domine la ville en termes de hauteur. Donc en fait, ça rajoute un peu... la réalité, je trouvais, était à la hauteur du fantasme que je m'en faisais. Parce que déjà, elle est belle, on sent que c'est un petit cocon au cœur de la ville. On voit... des gens qui ont l'air charismatiques, qui ont l'air de ne pas avoir grand-chose à prouver, etc. Moi, je me rappelle que mon chef de stage était une figure emblématique du régiment, qui a participé à toutes les grandes opérations, etc. qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup pour imposer le respect, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour comprendre qu'il a des compétences techniques et tactiques qui sont incroyables. Ça rajoutait même au fantasme de ce que je recherchais. En termes de mentalité, la fin est incroyable, on a l'impression de... En plus, ça dure 9 mois, donc c'est comme la fin d'une gestation qui se conclut par un accouchement. C'est douloureux, mais on est content d'avoir son nouveau-né. Et ben, c'est pareil à ce moment-là. On était particulièrement bien intégrés d'entrée de jeu. J'ai pas eu le sentiment de devoir faire mes preuves à nouveau. On a énormément à apprendre, donc c'est de l'entraînement continu. Et puis tant qu'on n'a pas vécu d'expérience opérationnelle, je pense qu'on garde quelque chose à prouver, mais on ne nous le fait pas ressentir plus que ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on considère que le cursus est suffisamment sélectif pour s'assurer que la relève et la nouvelle génération soient au niveau. Les groupes en ont besoin, donc l'acceptation se fait naturellement. J'ai trouvé ça, après ça va, je pense que ça va dépendre des compagnies et des groupes, mais j'ai trouvé un accueil bienveillant, chaleureux, plus dans cette logique d'apprendre et dans des conditions qui sont propices à l'apprentissage plutôt que sous stress, dans la contrainte, etc. Donc je pense que j'ai eu de la chance un peu en termes de groupe. Je pense ceux qui en ont connu le plus en termes d'expérience opérationnelle sont pas ceux qui ont besoin de le prouver verbalement. C'est souvent le silence, la posture et la façon de faire face, enfin, ou d'évoluer dans le quotidien qui nous fait dire, putain, il est solide sur les appuis, quoi. Et de rencontrer des gens comme ça, d'en côtoyer, c'était moi mon objectif de vie et mon objectif au niveau militaire. Gagner suffisamment en maturité pour ne pas avoir à en faire trop ou en parler. Voilà. J'ai la chance par rapport à la conjoncture d'avoir connu la pleine période Sahel. J'ai été déployé assez rapidement là-bas. Les premières sensations d'arriver sur le terrain sont extraordinaires. Tout change, hein, c'est un autre univers. On débarque dans une autre galaxie, que ce soit en termes de température, d'infrastructure, de mode de vie, etc. Découvrir les chambres, etc. C'est des choses qu'on a fantasmées. Jusqu'à présent. Donc voilà, pas mal d'appréhension, mais beaucoup d'excitation. Je pense qu'il est caractéristique de la jeunesse, parce que je venais à peine de franchir la vingtaine à cette époque-là. Première mission, donc prépositionnée dans une base au Sahel, et en fait, donc la première intervention, c'est un convoi donc, qui part du nord du Sahel vers le sud, et la mission, c'est de l'intercepter. Donc concrètement, le cœur du métier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait donc d'abord les images drones. On pouvait voir, mais comme dans un jeu vidéo ou comme ce qu'on voyait quand on était jeune ou quand on s'entraînait, sauf que là c'était bien réel. Et c'est assez impressionnant en termes de sensations parce que on devait partir le soir même, donc on avait les images pendant la journée. Les voir installer leur campement, se positionner, enfin, et se dire que ce soir on va être dans une vraie confrontation face à ces gens-là, et que c'est plus un jeu et que c'est la réalité. C'est vraiment troublant, assez déstabilisant. Les phases où on prépare son matériel, où on discute entre nous, sont assez lunaires également. Pourquoi? Parce que, enfin, moi j'ai toujours ressenti beaucoup plus d'appréhension et beaucoup plus de stress sur l'avant. C'est-à-dire sur toute la phase de préparation, d'autant plus que c'était ma première fois, donc c'est un dépucelage complet. Et en fait, ce que je trouvais incroyable, c'est en côtoyant les autres, de voir que tout le monde stresse, mais que ce stress est contenu et que la dynamique collective est ultra positive. C'est-à-dire que, sans malgré tout beaucoup de confiance et beaucoup de professionnalisme, avec un stress assumé, donc qui nous décomplexe d'en avoir un nous, même chez les gens qui ont de l'expérience et qui ont vécu beaucoup. Il y a une pudeur assumée où en fait tout le monde rassure l'autre. C'est marrant aussi, enfin je crois que c'est caractéristique de ces unités, mais beaucoup d'humour, hein, beaucoup de qui nous permettent de nous détacher de cet instant solennel. Enfin, toutes ces années à espérer, toutes ces années à s'entraîner, prenaient sens et prenaient corps cette nuit-là, quoi. À travers ce que je voyais en termes d'image, à travers mon matos qu'on préparait des centaines, des milliers de fois à l'entraînement. Là, vraiment, c'est la représentation finale, quoi. Ouais, du coup, quelques prises de photos collectives, etc. C'est, enfin voilà, c'est une sorte de figer le moment un peu pour l'éternité, quoi. Et après, du coup, le départ jusqu'aux hélicos. Alors moi, un moment qui m'a marqué. Donc là, on était de nuit. Donc ça rajoute quand même, enfin la nuit rajoute forcément un petit stress, hein. On reste des mammifères et à partir du moment où nos sens sont supprimés, bon, on se sent plus proie que prédateur. Mais là, tout l'effort collectif, c'est de garder cet esprit prédateur. Donc je trouve que ça se galvanise au niveau individuel. Nous, on poussait avec l'énergie et la rage de vivre ce moment-là et en même temps, les anciens nuançaient à travers leur maturité. Mais moi, ce que je trouvais formidable, c'est à la porte de l'hélico, donc ce moment solennel où on passe tous les uns à côté des autres et on se serre la main, etc. Et cette poignée de main, je trouvais ultra symbolique parce qu'elle est vraie, quoi. On se serre la main tous les jours, on se check tous les jours, etc. Et cette poignée de main prend tout son sens, quoi. Je sais pas, une sorte de remerciement collectif et en même temps, voilà. Pas un adieu, mais genre une sorte de. On montre la fraternité qui nous unit et le croisement de regard aussi est profond, quoi. Chaque croisement de regard est unique et on sent qu'il y a à la fois de l'appréhension et en même temps beaucoup de confiance et un peu de rage. Et le mélange est incroyable. D'autant plus émouvant, je trouve, de croiser le regard des gens avec qui j'ai fait le cursus, parce qu'on a grandi ensemble et on a espéré ensemble ce moment-là. Et se regarder dans le blanc des yeux et se dire, ok, c'est maintenant. Je sais pas, franchement, c'était assez émouvant. On décolle, on pose à plusieurs dizaines de kilomètres de l'objectif, donc du bivouac ennemi. On ravitaille les hélicoptères, donc chaque groupe, donc on est trois groupes, donc trois hélicos, enfin un groupe dans chaque hélicoptère. Appuyé par des gazelles. Donc on arrive sur le champ de bataille. Donc champ de bataille, c'est vraiment le mot parce que donc moi j'ai la chance de ne pas être loin du hublot, donc je vois le champ de bataille sous JVN. Donc déjà c'est un côté un peu surréaliste parce que sous Night Vision on a l'impression un peu d'être dans un jeu vidéo. Mais je vois, il y a eu un passage chasse, donc quelques bombes qui ont été larguées, donc je vois des carcasses en feu. Je vois les départs de coups depuis le sol vers les hélicoptères, je vois la réplique des hélicoptères depuis l'air vers le sol. Donc incroyable. Vraiment le 14 juillet, quoi, j'ai l'impression d'être au milieu de feu d'artifice. Plus du tout d'appréhension à ce moment-là. Assez concentré et assez euphorique, bizarrement. Et en fait, je me souviendrai aussi, je croise le regard de mes camarades à l'intérieur de l'hélico. Et j'ai lu le même regard chez tout le monde et c'était, j'avais l'impression d'avoir des pitbulls dans l'hélico et en fait qui attendaient une chose, c'est de débarquer quoi. Mais alors que je voyais un peu d'appréhension dans certains regards où j'arrivais à le déceler avant, plus zéro appréhension à ce moment-là que des gens qui en fait ont hâte de sortir quoi. Je sens même ça pousse un peu dans l'hélico, etc. On a l'impression d'avoir des coureurs sur les starting blocks qui attendent le coup de feu. Au final, qui n'arrive pas, alors pour plein de raisons différentes, je me rappelle plus, mais on tourne pendant des heures et des heures. Avec toujours cet échange terre-air, donc pas mal. Ça travaille beaucoup là-dessus, et on finit par être déposé au petit matin, donc le jour est en train de se lever. Donc on a passé une bonne partie de la nuit dans l'hélicoptère à tourner. Donc là, on intervient 2 jours, donc bizarrement, je sais pas, les choses reprennent un peu de réalité, alors que j'avais l'impression de l'avoir vécu virtuellement hein, pendant toute la nuit. Là, ça reprend un peu de réalité. Donc là, on est déposé au sol pour aller pour avancer et voir qui était encore valide, puis neutraliser en fonction ou capturer si besoin. Pareil, pas de fatigue, pas de stress à ce moment-là et assez euphorique. Je me rappelle que je croise notamment le regard d'un de mes camarades, encore une fois, avec qui j'ai fait les sélections, et on se surprenait un peu à rigoler tous les deux, quoi. On avait l'impression d'être comme à l'entraînement. J'ai pas l'impression, et c'est peut-être l'insouciance de la jeunesse, j'ai pas l'impression qu'on prenait clairement conscience de ce qui se passait en termes de dangerosité et de prise de risque. On était heureux de vivre ça et dans l'insouciance la plus complète. C'est pour ça, peut-être, et à terme, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai ce sentiment-là s'est estompé. Mais je trouvais ça assez sympa et je pense que c'est caractéristique aussi de la jeunesse. Ça manœuvre, et puis au final, on entend à la radio que les hélicos au-dessus ont repéré des positions ennemies, qu'apparemment elles sont dans notre dos. Donc c'est bien, ça a fait une petite piqûre de rappel à tout le monde parce qu'on s'est dit waouh. Voilà, heureusement que la sécurité arrière est assurée, mais voilà, le terrain est tellement difficile qu'en fait on a l'impression d'être dans la bonne direction et pas forcément. Donc une petite manœuvre pour aller pour essayer de se rapprocher de l'endroit qu'on nous a ploté. Donc là, il y a un des ennemis qui se fait neutraliser, un autre qui se rend. Donc neutralisé d'une balle dans l'épaule, c'est la première fois que je vois le visage de l'ennemi. Donc c'est un peu particulier, ça prend sens, quoi, ça devient humain. Et au final, je vois pas mal de peur dans leur regard. Je pense que la nuit a été beaucoup plus difficile pour eux qu'elle n'a été pour nous. On manœuvre, je me rends jusqu'à celui qui est blessé. Premier contact aussi en termes de toucher avec l'ennemi, assez particulier. Et en fait, bon, il était blessé au bras, donc il y avait une hémorragie. Moi, jeune, c'est là que je me dis j'ai encore beaucoup à apprendre. Jeune secouriste que j'étais, enfin jeune combattant que j'étais, j'ai essayé de placer un garrot sur son bras, mais la blessure était trop haute. En fait, j'ai serré le garrot, ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'était très douloureux pour lui, etc. Et voilà, bizarrement, une interaction avec lui qui se met à me parler français, qui se met à me dire merci, etc. Une fois que je commence à le médicaliser. Donc voilà, c'est un peu lunaire comme situation. Donc on finit par les conditionner. Après, on se retrouve tous. On s'est retrouvé avec les différents groupes. On a entamé toute la phase de SSE. Donc sur les véhicules, sur les packs, on a regroupé tous les personnels blessés chez eux. Donc après, on est dispatché un peu sur tout le champ de bataille. Donc chaque groupe a une zone à aller checker. Donc on fait le point sur le matériel, les hommes, etc. De manière à récupérer du renseignement. Donc une phase qui dure assez longtemps. Et on regroupe aussi tous les blessés chez eux. Pendant cette phase-là, donc c'est assez marrant parce que je trouve un Tomahawk de bonne facture dans un des véhicules. Et je me dis, putain, il est incroyable, incroyable, à peu près conservé, un petit peu brûlé par la carcasse du véhicule avec son propriétaire. Donc je récupère et que je garde comme un magnifique souvenir de cette première opération. Se suit une longue phase d'attente en fait où on est resté, je sais pas, peut-être une douzaine d'heures dans le désert. Donc on commençait à être à court d'eau, à court de tout. Donc la pression a eu le temps de redescendre, la fatigue s'installe, etc. Mais malgré tout, galvanisé par ce qui s'est passé et puis très heureux de cette première opération qui a été un succès. Donc voilà, c'était assez incroyable. Alors assez drôle parce qu'arrivé à la base, donc... mon chef sur site reçoit un coup de fil parce qu'il apparaissait sur les photos qui avaient été prises des différents positions, des différents véhicules sur le champ de bataille, apparaissait le fameux Tomahawk. Et il se trouve, je ne me rappelle plus bien, que le nom de l'opération, je crois, avait quelque chose d'un peu indien. Donc en fait, ça faisait sens, ce Tomahawk était un non-sens, et il y a un chef à Paris qui a dû voir ça apparaître sur les photos et qui s'est dit ça ferait un superbe trophée qui, en plus de ça, correspond au nom de l'opération. Donc a demandé à ce que, normalement, tout ce matériel-là qui doit être conservé lui soit fait remonter pour qu'il puisse le garder à son niveau. Sauf que moi, mon chef sur place avait bien compris que j'étais passé derrière et que j'avais récupéré ce magnifique trophée. Donc c'était marrant parce qu'il m'avait convoqué dans son bureau en me disant « Bon, on est d'accord, hein, on l'a perdu. » Je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il a brûlé avec le reste où on l'a enterré. Je lui ai dit « Oui, on est d'accord. » Mon collègue a fait « Allez, c'est bon, je ferme les yeux sur ça. » Et du coup, j'ai pu le garder. Donc c'était très fair, très fair play. Bon, moi, je prenais pas conscience de l'importance de l'opération sur le moment, parce que c'était notre première et que ça me paraissait être peut-être la routine pour les opérateurs. Et en fait, après, en ayant discuté avec eux, il se trouve que c'était vraiment quelque chose d'assez important, hein, qui avait des grosses conséquences au niveau stratégique, etc., avec beaucoup de moyens mobilisés. Donc je suis reparti sur d'autres missions derrière qui étaient peut-être au niveau opérationnel moins percutant que la première. Après, donc moi j'ai toujours, donc je vivais dans le sud-ouest à Bayonne, mais j'ai toujours été connecté à Paris parce que tous mes potes qui étaient en classe prépa ont continué leurs études. C'est une ville que j'ai toujours appréciée. Je me suis toujours senti proche de cette ville, donc j'y passais la plupart de mes week-ends, je remontais quand je pouvais. En 2015, les attentats, ça a été pour tout le monde au niveau national, ça a été un vrai choc. Mais je me sentais comme tous les Parisiens, mais d'autant plus meurtri que mon quotidien direct et des gens qui me ressemblaient en termes de routine de vie, en termes de style, etc., avaient été touchés. Et quelque part, ce sentiment que l'absence de porosité entre le milieu militaire et ce qu'on vivait au niveau professionnel avait touché le milieu civil et tout notre quotidien à côté. On pensait les deux mondes imperméables, et c'est pour ça même qu'on fait ce métier. C'est-à-dire, enfin, je pense absorber toute la violence et la cruauté du monde et permettre aux gens de vivre dans un cadre pacifique et de manière insouciante et innocente, se dire que ce quotidien-là est normal de vivre paisiblement et dans le calme. Donc quelque part, c'était un peu tous les militaires, de manière plus ou moins consciente, un aveu d'échec de se dire la barrière a été franchie entre les deux mondes, alors que notre métier est justement d'exporter les problèmes, d'exporter la violence, de manière à ce que les gens puissent profiter et jouir des plaisirs de la vie. Moi, de rentrer de mission et de vivre à Paris et de rencontrer ces gens-là, ça donnait sens à mon métier. Parce qu'ils étaient quelque part heureux, parce que quelque part ils n'avaient pas toute la conscience qu'on a nous de ce que peut être le monde, de ce que peut être la nature humaine. Et du coup, ils méritent le fait de se battre pour entretenir le quotidien. Donc ça a été quelque part, enfin moi en tout cas, et je pense beaucoup de Parisiens, et puis beaucoup de militaires, et puis beaucoup de Français dans le sens général du terme, une vraie blessure ouverte. Donc le fait d'être envoyé au Levant après, en tant que Français, en tant que Parisien et en tant que jeune en ayant la vingtaine, bah, ça prenait tout son sens parce que se reconnecter deux de mes mondes et le métier des armes devenait d'autant plus concret qu'on avait menacé notre quotidien et notre routine de civil. Et puis en plus de ça, parce que je pense que beaucoup de Français et aussi beaucoup de Parisiens vivaient dans cette impuissance de se dire je peux faire quelque chose pour réagir à ça, quoi. Tout le monde était impuissant par rapport à ce qui s'est passé, donc de nous donner la capacité, l'opportunité en tant que Français et encore plus en tant que Parisien d'avoir une capacité de réaction, je trouvais ça formidable. Moi, le Levant, c'est la mission qui m'a le plus marqué. En termes d'intensité, parce que c'était une vraie guerre, on avait un ennemi avec toutes les composantes d'une armée normale en face, moins asymétrique du coup, un peu plus fair play si j'ose dire. Donc cette conscience de participer à un conflit au sens propre du terme. Donc on avait la chance de combattre avec notre partenaire qui était les Kurdes, qui est un peuple formidable, un mélange d'unité homme et d'unité femme, qui combattent avec le même courage, la même envie, la même grâce. Se contraster entre le chaos du paysage et le chaos de la situation, bah, la beauté de ces gens-là, que je trouvais ouais, vraiment dans toutes les composantes bienveillantes et remplies d'idéalisme. Et les femmes kurdes m'ont, et je pense nous ont particulièrement marqué. Pourquoi ? Parce qu'elles se battent donc corps et âme, sur la même ligne que les hommes, avec la même intensité et la même rage. Parfois c'était des petits gabarits, elles portaient un fusil sur l'épaule qui était plus grande qu'elles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas de la propagande, elles sont vraiment en première ligne, et elles sont vraiment très courageuses. Et en fait, elles sont symboliques de quelque chose dans cette région, et surtout par rapport à la situation où se confrontent des idéologies radicales. Elles combattent cheveux au vent, contre l'obscurantisme, et quelque part elles sont une icône de la liberté et de la beauté que nous aussi on cherchait à défendre. Pour nous elles étaient, je prenais l'exemple de la Vierge Marie, mais c'était presque ça quoi. Elles incarnaient ouais, la beauté et la pureté, et donnaient du sens d'autant plus à notre combat. Et en même temps, elles incarnaient le courage et la combativité, donc c'était assez formidable. Elles étaient magnifiques. Alors je sais pas si cette beauté est exacerbée par le fait qu'autour c'était pas forcément toujours très joli, mais de les voir et puis de voir l'influence qu'elles avaient, bah, notamment sur les femmes arabes qui, quand elles les voyaient se battre comme ça, comme des lionnes, enlevaient leur voile, rejoignaient les unités pour combattre. Les femmes arabes combattaient avec les Kurdes, les minorités chrétiennes, les yézidis, etc. C'était troublant et ça avait quelque chose de communicatif, quoi. Le revers de la médaille, c'est que qu'elle soit blessée ou qu'elle meure, quelque part c'était une blessure d'autant plus difficile à accepter. C'était la fin de l'insouciance ou de l'innocence pour nous, de quelque chose qui nous paraît intouchable et qui est touché. Et c'est la même chose pour les populations civiles. Moi, je considère qu'à partir du moment où il y a un conflit armé, c'est comme un match de foot, donc deux équipes se donnent rendez-vous sur le terrain et ça se joue entre les deux équipes. Si les gens dans les gradins sont atteints par ce qui se passe ou se blessent ou quoi, ça devient problématique parce qu'ils sont pas responsables. Tant que ça se joue entre adultes consentants, si j'ose dire, c'est pas un problème, mais du coup, de voir des populations civiles, des enfants, les femmes, pour nous, kurdes, etc., pour nous, quelque part, c'est une part d'innocence qui est atteinte et c'est plus difficile de l'accepter. C'était des mois vraiment intensifs parce qu'on... Quels que soient les points où on allait, on était souvent confrontés à échanges de feu, quels qu'ils soient, qu'ils soient directs ou indirects, parce qu'en face, ils avaient toutes les composantes d'une armée, donc ils étaient en mesure de nous faire de mal de différentes façons. Vu qu'il y avait une imbrication entre deux entités qui se battaient, donc nous et Daesh, et la population civile, il y avait beaucoup de dommages collatéraux. Donc en fait, on réceptionnait beaucoup de populations civiles qui avaient été touchées, et puis beaucoup du partenaire kurde également. C'est la première fois où, j'ai été confronté à la blessure, à la mort, mais de gens pour qui j'avais profondément de l'affection, parce que, idéologiquement parlant, ils étaient entre guillemets de mon côté, ou parce qu'ils étaient considérés comme innocents à mes yeux. Donc c'était à la fois difficile et en même temps ça donnait d'autant plus de sens à notre métier et puis à nos savoir-faire parce qu'on pouvait les utiliser en dehors du fait d'absolument avoir une action offensive. On avait aussi les moyens d'essayer en fait de pallier quelque part aux conséquences de la guerre. Donc c'était quand même, même si c'était difficile à vivre, c'était quand même le sentiment de se rattraper quelque part en essayant de faire au mieux. Ça, c'est toute ma grande théorie d'ailleurs sur l'action militaire. C'est ce que j'explique aux gens qui se disent pacifistes et antimilitaristes. Pour moi, il y a un paradoxe profond entre les deux. On est justement pacifiste parce qu'on est pro-militaire. Le militaire a quand même, pour moi, par rapport à la décision politique qui est prise et qui est un petit peu abstraite parce qu'il y a des enjeux économiques, politiques ou stratégiques, le métier du militaire, c'est quand même d'aller sur place, de se rendre compte du quotidien des gens, de côtoyer le désespoir et la violence directement, et quelque part de mettre de l'humanité dans une décision qui, à la base, on est un peu privé. Ouais. Parce qu'on est doué de sensibilité et qu'on reste des êtres humains, et du coup, par rapport à la mission qu'on nous est donnée, on arrive, tout en appliquant la mission, à faire au mieux, en dérivant parfois un petit peu à droite et à gauche, et puis en aidant les gens autant qu'on peut, et même sans les aider, au moins de partager leur désespoir ou leur tristesse, quelque part, c'est mieux que rien. Donc là, quelque part, c'était ça aussi, d'être imbriqué auprès de la population, de côtoyer toute leur détresse, leur désespoir, leur tristesse. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est je trouve l'agonie horrible. Et en fait, j'ai côtoyé l'agonie pour la première fois et c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un peu ce qui me touchait le plus, cet sentiment d'impuissance de quelqu'un qui sait que son destin est tracé. Cette phase-là est assez délicate, assez obscure. Enfin, je me suis vachement assagi. Et notamment par le fait d'avoir vécu, enfin, d'avoir compris toutes les conséquences qu'avait un conflit armé, en termes de blessures, en termes de morts, en termes de dommages collatéraux, etc. C'est la prise de conscience que c'est pas un jeu et que... les conséquences sont parfois monstrueuses. Je sentais moins cette volonté de confrontation permanente. Je trouve que quand on est jeune, on cherche le coup de feu, on en rêve, et pendant les débuts, on s'en lasse pas. Et puis, progressivement, quand on y est, quand on y est exposé suffisamment, on se rend compte que c'est pas aussi sexy que ça peut l'être, surtout par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Et c'est marrant parce que je parlais de fatalisme, on prend aussi conscience qu'on n'est pas grand-chose. Et je pense que ça, c'est moi, contrairement à énormément d'anciens et de vétérans qui ont fait les grandes guerres, etc., j'ai absolument rien vécu comparé à eux. Mais j'arrivais à comprendre leur état d'esprit d'usure et de fatalisme, où en fait, on se dit à un moment, bah, suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment, et voilà. Et puis en fait, donc, c'est une prise de conscience qui, quelque part, est libératrice parce que. On se dit, bon, allez, c'est bon, on y va. Advienne que pourra, et puis il se passera ce qui doit se passer. Je sais qu'il y a plusieurs fois où, genre, le fait de ne pas passer loin de quelque chose, en fait, m'a aidé dans ce cheminement intellectuel. Une fois, j'étais avec un ami, donc on faisait. On était accompagné d'Américains, donc des Deltas. Et on fouillait dans une ville, donc les anciens, un peu point stratégique. Déjà, les Deltas, je les trouvais formidables. Ils avaient des looks complètement atypiques. Leur chef de groupe avait une cicatrice donc qui partait du haut du crâne et qui se finissait dans le cou. Et il avait une espèce de colt à la ceinture dans un étui en cuir. Il fumait des gros cigares, etc. Je me suis dit, cette personne est incroyable et fait partie de tous les gens atypiques qu'on rencontre dans ce genre de situation et dans ces conflits-là. Et par exemple, une fois, on rentre dans une maison et en fait, on passe plusieurs fois dans la pièce. Avant de se rendre compte, après coup, que mon binôme était passé sans le vouloir au-dessus d'un engin explosif improvisé, donc avec des guirlandes, des pressure plates. Donc si on marche dessus, ça appuie. Il y avait tout un dispositif dans la pièce avec des bombes de partout. Il ne le savait pas, il a passé plusieurs fois dans la pièce, etc. C'est juste que son pied s'est posé au bon moment, au bon endroit, sans jamais appuyer sur le dispositif. Donc on était là à se dire, mais c'est fou. Pareil, à un moment, on est en convoi avec eux et en fait, on voit qu'il y avait un dispositif qui était installé pour péter au passage du convoi, sauf qu'on était passé du bon côté de la route, c'est-à-dire qu'on avait visuel sur le dispositif qui était caché derrière le mur parce qu'il nous attendait à ce que le convoi passe dans l'autre sens. Donc, on est tombé là-dessus, on s'est dit ok, on serait passé dans l'autre sens, c'est pareil, c'était terminé. Pareil, enfin même en tir direct, des impacts de balles qui arrivent, je sais pas, pile au moment où on se baisse ou. On cherche à ramasser quelque chose, etc. Donc, contrairement à ce qu'ont vécu énormément d'anciens, et où c'était beaucoup plus exacerbé, avec beaucoup plus d'intensité, on prend conscience qu'il y a une part de chance, quelles que soient nos capacités, notre entraînement, quels que soient nos réflexes, etc., où on ne peut rien y faire, et ça participe beaucoup à s'assagir et aussi à gagner en humilité, parce que on est humble face à la mort et face à l'adversité. On a beau être le mec le plus entraîné de la Terre, le plus courageux, etc. Bah voilà, mauvais endroit, mauvais moment, et c'est toute l'humilité des conflits armés, de la guerre, c'est qu'on dit au final pas grand chose quoi. Et ça se joue à pas grand chose. J'avais une spécialité qui me permettait de partir avec plusieurs groupes en même temps, donc je prenais mon repos un peu en base arrière, donc c'était quelques kilomètres de la ligne de front. Et donc pendant que j'étais de repos, il y a eu une attaque justement sur ce point-là. Donc déjà, l'attaque était particulière parce que dans ce conflit-là, c'était la première fois qu'on voyait vraiment le visage des mecs en face. Les distances sont assez longues. En fait, on a l'impression de combattre un fantôme, ce qui génère un petit peu de frustration malgré tout. Et là, pour la première fois, ce dont on fantasme, on voit les drapeaux au loin, on sait qu'ils sont là, le territoire, on voit des véhicules passer, etc. Pour la première fois, il y a une personnification humaine de l'ennemi et puis de l'idéologie qu'on combat. Donc c'était assez troublant. Et donc ce qui était aussi troublant, c'est que sur ce point-là, ça servait un peu d'hôpital de campagne. Donc en fait, toutes les populations civiles qui étaient blessées ou qui explosaient sur des engins improvisés, etc., ramenaient leurs blessés. Donc encore une fois, on était particulièrement confrontés aux blessures, aux morts et à l'agonie de gens qui ne sont pas responsables. Il y a une pudeur parce que on fonctionne. Enfin, ce genre d'unité doit fonctionner sur un rapport de force, c'est-à-dire qu'on doit montrer de la force parce qu'on doit être à la hauteur de déjà de l'événement qui est dur. Et puis de l'ennemi qu'on a en face de nous, parce que c'est des gens aguerris qui crèvent de faim depuis qu'ils sont petits, ils n'ont pas d'eau courante, etc. Donc nous, issus de la société occidentale, qu'est-ce qu'on a à leur opposer? C'est-à-dire, nous, on est à baigner dans le confort et la sécurité. Est-ce qu'on est au niveau de ces gens qui ont les dents longues et qui ont la rage? Donc pour ça, il faut se faire violence pour essayer de sortir de ce cocon dans lequel on a vécu. Donc on a besoin de ce rapport de force. Mais ce rapport de force aussi, dans ce genre d'unité, nous fait dire, je suis suffisamment fort pour faire face à tout ça. Et j'ai pas besoin forcément d'aide, etc. Et en fait, je trouve que ça, enfin, le fait de voir des enfants, des femmes, etc., être touchés, quelque part, on sortait de cette structure complètement imperméable, professionnelle, et en fait, on s'identifiait, d'autant plus les pères de famille, etc., et ils s'identifiaient auprès de cette population. Et en fait, il y avait une sorte d'interaction qui se créait entre leur quotidien de père de famille ou de mari et le côté militaire. Ça, c'était assez dur à gérer. Il y a eu, enfin, je pense que ça a marqué énormément de gens. Donc, on en parle quand même entre nous, etc. Et puis, on se dit, ça pourrait être pire, parce qu'encore une fois, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'ont vécu bon nombre de nos anciens et de nos ancêtres. Mais, ouais, c'était assez difficile. Et, quelque part, c'est aussi un peu le fardeau à porter de ce genre d'opération. C'est-à-dire qu'on a vécu des moments exaltants et on s'est senti au cœur de l'actualité et acteur de ce qui se passait. Et en même temps, il faut pouvoir assumer derrière toutes les conséquences que ça a sur nous. Après, c'est le principe du métier des armes et de tout militaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le militaire n'est pas forcément très manichéen. C'est-à-dire, enfin, la solution de facilité, c'est se dire, bon, il y a le camp des gentils, il y a le camp des méchants. Et ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est quand même, on a des gens avec une idéologie radicalement opposée à la nôtre. C'est-à-dire, leur conception de la vie, leur conception de l'humain est à l'opposé de ce qu'on pense nous. Donc, quelque part, ça traverse les frontières du conflit militaire ou du conflit stratégique. C'est un combat idéologique. En plus de ce que je disais à propos des attentats, que ça nous est touché directement. C'est ça qui est intéressant dans les conflits armés, c'est qu'il y a quand même un respect, quelle que soit l'idéologie de la personne, pour le combattant en face. La notion de drapeau est importante, mais la notion de religion aussi, etc. Mais c'est surtout ce qui nous différencie entre eux et nous, je trouvais, c'était notre capacité à être humaniste et à faire preuve de sensibilité. C'est-à-dire, la souffrance, le désespoir des gens, etc., on y est sensible. Je trouve que chez eux, en tout cas chez la plupart des gens que j'ai combattus pendant ma carrière, cette capacité d'empathie, cette capacité de sensibilité, ils ne l'avaient plus. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, ce soit tous des gens complètement déconnectés du réel. C'est-à-dire que leur idéologie est nuisible. Et pour moi, c'est ça qui les distingue vraiment. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, faire preuve de sensibilité et d'humanité dans ce métier-là, ce n'est pas une contrainte ou ce n'est pas quelque chose qui va faire de nous un mauvais militaire ou un mauvais opérateur. Au contraire, je trouve que ça fait de moi un meilleur opérateur à partir du moment où je suis toujours doué de sensibilité, je sais pourquoi je me bats et je sais qui je défends. Et aussi, je sais que je me différencie des gens en face à travers mon comportement. Donc, entre l'idéologie qui guide le mouvement et individuellement la décision qu'a prise la personne, je trouve qu'il y a une différence. Pourquoi? Parce que donc rien n'excuse le choix qu'ils aient fait, parce que le choix final leur appartient. Par contre, il y a plein de choses qui l'expliquent. C'est-à-dire, à cette époque-là, on réussit ces groupes-là à galvaniser le sens, l'aventure, sorte d'idéalisme de ces jeunes un peu paumés, etc., en leur disant, ta vie, c'est de la merde, mais nous, on te propose de devenir un temps un guerrier et de faire quelque chose de correct de ta vie. Ce qu'on cherche à faire également avec l'armée. Donc en fait, les mêmes leviers sont activés, sauf que là, c'est à mauvais escient pour une idéologie qui est complètement obscure. Donc le choix final l'appartient et il le paye. Parce que à partir du moment où tu as choisi ton camp, tu acceptes le package complet, quoi. Et il y aura confrontation entre deux idéologies et nous, on défendra notre idéologie sans pitié et jusqu'au bout. C'est pas parce qu'on agit sans pitié que j'ai pas forcément d'empathie individuellement pour un mec. C'est-à-dire que je respecte en tant que combattant son courage et le fait qu'il prenne les armes et qu'il rentre dans une confrontation avec nous. Et c'est marrant parce que par exemple, donc on suivait un assaut des Kurdes, donc on avançait avec eux et je voyais le cadavre d'un des djihadistes. Donc il avait été blessé aux deux jambes, je me rappelle plus très bien, je crois qu'il y en a une qui était arrachée. Et en fait, c'était posé deux garrots, donc un à chaque jambe. Et en fait, il était mort avec sa cigarette qui était consumée, donc encore dans ses lèvres serrées. J'ai regardé ce mec-là et je me suis dit, bon, derrière la personne en tant que telle, son comportement, je me suis identifié à lui dans le sens où je me suis dit, si ça m'était arrivé à moi et que j'avais été blessé, quelle aurait été ma dernière action, quoi. Et je pense que je me serais cramé une clope comme lui, quoi. Et du coup, bizarrement, je me dis, derrière l'idéologie, derrière tout ce qu'il y a de néfaste et qui peut conditionner sa façon de penser, etc., bah, au fond, il reste malgré tout humain et en fait, il a un réflexe de combattant tel que je l'aurais eu moi, quelque part. Malgré le fait qu'on soit sans pitié et sans empathie pendant la phase de combat, donc, j'arrive malgré tout, j'ai pas de colère ou de rengaine particulière au niveau personnel. J'ai une rengaine pour l'idéologie, j'ai une rengaine pour tout ce qui en découle en termes de comportement, en termes d'action, etc. Mais pour la personne, à titre personnel, il y a un respect entre guerriers. Donc cette mission-là se termine. Il y a une des opérations qui m'a marqué, donc c'était un assaut vertical classique, comme on a l'habitude de faire, donc c'était de nuit, et en fait, précède une phase de bombardement, et ensuite une dépose au sol, où, comme d'habitude, ensuite on ratisse. Mais en fait, le bombardement avait allumé un incendie, c'était en bord de lisière de forêt. Il avait allumé un incendie dans la forêt, qui avait un côté dantesque, c'est-à-dire qu'on pose le pied au sol, et en fait, il y avait encore les flammes tout autour. Rajouté par le fait qu'on était sous vision nocturne, c'était apocalyptique comme ambiance et comme paysage. En fait, c'est assez symbolique de ce qu'on ressent à travers les conflits armés, à travers la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des moments de grâce et de beauté qui contrastent avec les moments de violence et de chaos à côté. Et genre, même ça qui paraît être en soi des flammes, quelque chose d'assez chaotique, je trouvais ça esthétiquement magnifique, d'autant plus dans cette situation-là, quoi. C'était vraiment dantesque, ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, c'est caractéristique de la guerre où en fait, on voit autant ce qu'il y a de plus beau comme ce qu'il y a de pire, et on voit autant dans ce que la nature humaine peut dégager de meilleur comme ce qu'elle peut faire de pire. Par exemple, un sourire d'enfant en Afrique ou au Levant aura toujours plus d'impact, sera toujours plus beau à regarder que ce qu'on peut voir par exemple en France. Pourquoi ? Parce que la beauté du moment en fait contraste avec un paysage noir tout autour. Donc en fait, ça prend d'autant plus son sens. Et pareil, à la guerre sont exacerbés les sentiments les pires comme les moins bons. Et là, à travers ce paysage-là, donc esthétiquement, c'était magnifique à voir. Et en même temps, ça contraste aussi avec un côté morbide qui nous rappelle que c'est pas un jeu et que la guerre, c'est moche. Et encore une fois, en toute humilité, comparé à ce qu'ont pu vivre nos anciens dans les tranchées, etc., on en est très loin en termes de morbide. Mais ça n'est pas comme dans les films ou comme dans les livres où tout est romancé, tout est présenté de la plus belle manière, et c'est normal, parce qu'il ne faut pas dégoûter la jeunesse, il faut leur garder une certaine forme d'idéalisme. Mais concrètement, ça reste quand même donc entrecoupé de moments de grâce, mais aussi de moments qui sont moches. Et je me rappelle par exemple, sur cette opération, suite au bombardement, je m'étais posté au pied d'un arbre, en fait, pour attendre face à la lisière, en fait, le jour avait commencé à ressurgir, donc progressivement la lumière s'installait, en fait, on reprenait nos repères, etc., et on visualisait tout autour de nous de mieux en mieux. En fait, en levant la tête, je me suis rendu compte que j'étais au point d'impact des bombes, et que du coup, ça avait projeté des restes humains, des mecs qui étaient présents sur la zone, dans l'arbre. Donc ça avait vraiment un côté film d'horreur, un peu Resident Evil, etc. Et de la sorte de beauté de la nuit, etc., et de tout ce qu'on avait vu en termes de paysage, etc., il y avait ce côté, ce rappel à l'ordre matinal du côté morbide et cruel de la guerre, et que c'est pas joli à voir. Il y a deux façons de répondre à ça. En fait, c'est soit on se blinde et on se dit, bon, j'arrête de me poser trop de questions, j'arrête de faire preuve de sensibilité, c'est-à-dire que tout ce que je vois d'horrible, tous les morts, les blessés, etc., le réflexe, et je trouve la solution de facilité, c'est de se dire, plus rien ne me touche. Je me blinde intérieurement et je ne suis plus sensible à rien. La conséquence derrière, c'est quoi? C'est que bah, la personne, je trouve, ça a un affect ensuite sur son quotidien et de manière extra-professionnelle. C'est-à-dire que ces gens-là, du coup, se deviennent un peu aigris, se renferment sur eux-mêmes, etc. Plus rien n'a de sens. Je jette pas la pierre, parce que c'est normal, et c'est souvent d'ailleurs, et surtout pendant les grandes guerres, le réflexe de tous les combattants, c'est de se dire, devant tant d'horreurs, devant tant de cruautés, etc., bah, ça n'a pas de sens, donc ça n'existe, donc je n'ai pas à être sensible sur cette chose-là. Et je trouve d'essayer de garder la flamme et de continuer à être touché par la cruauté, par la mort, de continuer à voir même ce genre de choses, donc des gens déchiquetés, etc., comme avant tout des êtres humains, je trouve que c'est garant derrière d'une certaine forme de stabilité psychologique à se dire, bah, je suis quand même resté, j'ai quand même essayé de garder la flamme et de me dire, voilà, ça, je reste humain avant tout, avant d'être militaire, et c'est normal que ça me touche, quoi. Une autre anecdote de mission qui m'a marqué et aussi qui fait sens par rapport là au discours que je tiens. Donc là, c'était plus en fin de carrière, donc on était dans un groupe spécialisé avec des gens avec qui on a l'habitude de s'entraîner et un peu plus aguerri, avec plus d'expérience opérationnelle, etc. C'est un cadre de travail qui est particulier, parce que ce que je disais, c'est qu'en général, on s'assagit avec l'expérience. Donc là, j'avais affaire à un groupe calme de gens, que des potes avec qui on est parti plusieurs fois en mission, etc. Plus de sérénité, moins de fougue, du coup, moins peut-être d'euphorie, un peu plus assagi, mais malgré tout, une sérénité latente. Et à un moment, donc il y a une opération où, en fait, encore une fois, c'est un bivouac ennemi qui est repéré, et en fait, quand les hélicos approchent, ils se font entendre et du coup, les gens présents sur le bivouac se dispersent un peu partout. Et en fait, certains rejoignent un village qui est à proximité, qui est d'ailleurs leur village, hein, et en fait se cachent dans les maisons. Donc nous, l'ordre nous est donné de fouiller le village intégralement, donc de nuit. Et c'est assez intéressant parce que techniquement, ça reste complexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sont entremêlés la population civile, femmes, enfants qui vivent dans le village et potentiellement des cibles ennemies, quoi. En plus de ça, donc, le combat en milieu clos, c'est assez particulier parce qu'on découvre une situation, on rentre dans une maison, il faut réagir vite, s'il y a une menace, pouvoir la traiter. En même temps, savoir discriminer si la personne est menaçante ou pas, est-ce qu'elle est armée, qui sait, etc. Donc c'est assez intense et j'étais content que ça arrive dans une phase où on était tous aguerris et entraînés, et du coup, ça s'est plutôt bien déroulé. Et en fait, il y a une image qui me marque un peu, donc heureux de travailler avec un groupe qui calme, posé, on sent l'habitude, etc. C'est assez exaltant d'être dans des conditions comme ça. Et en fait, donc on fait notre travail, on finit par récupérer les mecs qu'on venait chercher. Et c'est là que je parlais encore une fois du contraste entre violence première de notre métier, et en fait tout ce qu'on voit à côté et qu'on trouve un peu formidable et un peu des moments de grâce. Et je me rappelle, donc on balaye tout le village, donc on fouille les huttes, etc. Et en fait, à l'extérieur, ils avaient des espèces de passerelles avec des moustiquaires, donc ils dormaient en extérieur pour essayer de se rafraîchir. Donc il y avait plein de femmes, plein d'enfants, etc. Donc c'était assez délicat, à chaque fois on devait savoir qui était qui. Et en fait, on s'est rendu compte, on finit absolument tout, on se regroupe, on entend des pleurs à l'arrière. Et en fait, on avait oublié un bébé qui était un nourrisson qui était sous les draps, qu'on avait loupé de nuit sous les bêtes. Moi, je me retourne et en fait, je vois la scène et je parlais de moments de grâce, c'était tellement mignon. Je vois un de mes potes, particulièrement aguerri, tout équipé, etc., qui arrive et puis le petit nourrisson qui tend les bras pour se faire récupérer par lui. Cette interaction, je la trouvais formidable, quoi. C'est-à-dire un mec ultra équipé qui, dans la vocation première, est censé faire preuve de violence, etc. Et en fait, le nourrisson complètement innocent, etc., qui voit arriver, qui a ce réflexe de tendre les mains, donc le voir les prendre dans ses bras, etc., et les ramener, c'était tellement mignon. Et voilà, et du coup, ça contraste un peu avec peut-être le cliché qu'on a de mec rude, complètement insensible et complètement déshumanisé, alors que c'est complètement l'inverse, quoi. On n'est jamais sûr que la zone est complètement sécurisée. Et c'est vrai que je pouvais pas croiser son regard parce que c'était de nuit, mais j'ai senti un changement de posture entre l'hypervigilance du mec qui approche, etc., et en fait la prise de conscience que c'est un nourrisson et qu'en plus il tend les bras. Et en fait, en plus de ça, cette personne, il se trouve qu'il est père de famille. Et en fait, J'ai senti un changement d'ambiance, ou en fait un relâchement de se dire, bon, de m'entendre mignonnerie, en fait, il a été, je pense, touché sur le moment. Du coup, la vigilance du moment, enfin, la sonalité du moment s'est transformée en une image du quotidien, voilà, où il a été ramené à sa mère, et voilà, c'était assez touchant. Le climat de tranquillité et de paix dans lequel on vit, là notamment à Paris, où on est un petit peu dans l'insouciance, encore plus dans certains quartiers, etc., n'est possible que parce qu'il y a un travail dans l'ombre pour garantir cette atmosphère paisible. On a tendance à penser, et c'est particulièrement présent dans la culture française, que tout est un droit, et on a tendance à penser que la tranquillité et la paix, c'est un droit. Il faut savoir que ça se paye le prix fort. Et que ça se paye le prix fort par des gens qui effectivement ont choisi cette voie-là, mais qui en fait en souffrent au quotidien, donc à travers des blessures physiques, des morts, mais aussi des blessures psychologiques. Je trouve que c'est bien d'en avoir conscience. Ça veut pas dire se violenter en permanence et s'apitoyer sur le sort de ces gens, parce qu'ils ont quand même fait ce choix volontaire, mais juste d'en garder conscience, je trouve que ça permet de... Voilà, d'apprécier son quotidien, d'apprécier la chance qu'on a de vivre dans cette atmosphère, le privilège que c'est, et ne pas se dire que c'est un droit immuable, divin, parce que nous, en tant que Français, on ne mérite pas plus de passeport et une balle perdue que le Malien ou que le Syrien moyen, quoi. Et en même temps, c'est important aussi que les militaires comprennent que tout est complémentaire, on ne peut pas non plus demander trop aux gens, c'est-à-dire que leur action au quotidien, le métier qu'ils font, la voie qu'ils empruntent, en fait, permet aussi aux militaires de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et les gens payent les impôts, et en fait, il y a une complémentarité qui se crée au niveau de la société, et ça, il faut en avoir conscience, parce que le Parisien moyen, par exemple, qui travaille dans un bureau, n'est rien sans le militaire qui assure ses arrières, qui lui permet de travailler dans un contexte particulier, et en fait, d'absorber toute la violence qui gravite autour de lui sans la vivre au quotidien. Et en même temps, le militaire a besoin de cette personne-là qui assure un peu les arrières et qui entretient l'activité et qui le finance, etc. Et je trouve, c'est aussi important pour les militaires que, en voyant ces gens-là évoluer et en les voyant évoluer dans une forme d'innocence et d'insouciance, qu'ils comprennent que c'est... Enfin, je trouve, en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais, que c'est ça qui donne du sens à notre métier. Moi, de voir, de sortir à Paris, de voir les gens profiter, boire, etc., et sans être dans cette conscience que y a une obscurité qui gravite tout autour d'eux, je trouve que c'est se dire que notre travail est bien fait, parce que ils sont pas impactés directement, donc c'est ça qui donne du sens, quoi, et voilà. Moi, j'aimerais qu'il y ait une reconnexion qui se fasse entre l'armée et la nation, parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc, à un jeune qui voudrait s'engager, je lui dirais que pour moi, même si j'ai un respect pour toutes les activités professionnelles, je trouve que la voie des armes est la façon la plus noble pour lui de passer d'un enfant à un homme, avec toutes les contraintes que ça pose. C'est-à-dire, il y a un côté noble là-dedans de découvrir la vie, et de se confronter à l'adversité. Et en même temps, il faut qu'il soit prêt à ce que jeunesse se passe et qu'il rentre dans le monde des adultes, c'est-à-dire qu'il perde un peu cette utopie infantile d'un monde idyllique. Je lui dirais qu'à partir du moment où il cherche l'aventure, à partir du moment où il n'arrive pas à se... À partir du moment où il n'arrive pas à se contenter de peu, qu'il est un minimum idéaliste et qu'il demande beaucoup à la vie, je lui dirais que cette voie-là est parfaite parce qu'elle lui offre la possibilité de vivre des expériences intenses et de sortir d'un quotidien qui peut-être ne lui plairait pas. Donc je lui dirais fonce et fais preuve de fougue et d'élan. Par contre, prépare-toi aussi quelque part à payer le revers de la médaille, c'est-à-dire que je pense que tout moment exaltant et tout moment de joie et tout moment positif doit se payer, et il faut, à partir du moment où on fait ce choix de carrière, être prêt à en assumer les conséquences et à en payer le prix fort si nécessaire. Donc, à titre personnel, je trouve que l'armée m'a m'a fait énormément grandir. J'en ai appris beaucoup sur moi-même en termes de caractère. J'ai appris mes qualités, mes défauts, j'ai appris mes limites. J'ai appris aussi à travailler en équipe. Je pense que ça m'a apporté. J'ai gagné énormément en humilité en côtoyant des gens que je considère plus forts que moi, plus courageux que moi. Ou alors qui font face à plus de malheurs que moi. Et du coup, l'armée m'a aussi apporté pas mal de recul sur la vie. C'est-à-dire que tout ce qui me paraissait être important et qui me paraissait être de vrais problèmes, en fait, mis en perspective avec la vraie détresse et la vraie tristesse des gens, ça me permet voilà, de remettre les choses en perspective et de réaccorder de l'importance aux choses qui en méritent vraiment. Et en l'occurrence, bah, voilà, il y avait beaucoup de choses qui ne méritaient pas que j'y apporte de l'importance. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie de me concentrer sur ce qui fait sens pour moi et voilà, ce qui fait l'essence de la vie.